En les faisant entendre, les mots, si vous nous avez écrit un texte ce matin, Didier, un texte qui rend hommage à Eti Hilsum, assassiné à Auschwitz en 1943, et dont les lettres et journaux intimes ont été par la suite publiés dans le monde entier, quand est-ce que vous les avez découverts, vous?
Ben, il n'y a pas très longtemps. Quand je dis il n'y a pas très longtemps, c'est à mon échelle, à moi. Hein. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une petite vingtaine d'années.
Oui.
J'ai été d'abord touché, c'est souvent, encore une fois, l'image, j'ai été touché par le visage de cette jeune femme. Elle a quelque chose de lumineux, à la fois dans le regard, dans le dessin du visage. Elle me fait penser à un oiseau un peu effarouché, et puisqu'elle a écrit, m'a touché au cœur. C'est très beau.
Alors vous l'évoquez dans ce texte, on
alors,
vous écoute.
C'est presque une carte postale. Je dis, chère mademoiselle Hilsum. Ça m'a échappé. Je sais pourtant que depuis une circulaire de Matignon du 21 février 2012, en France, on ne dit plus, on n'écrit plus mademoiselle. C'est pas du tout une interdiction, mais c'est une forte recommandation, au prétexte que c'était sexiste. Moi, j'avoue que je trouvais ça très bien, très beau, très joli. Mademoiselle de Paris, mademoiselle de Jonquière, mademoiselle de Maupin, mademoiselle Julie de Strindberg, mademoiselle Fifi de Guy de Maupassant, mademoiselle Else de Schnitzler... mademoiselle Prime de Paulo Coelho, et puis vous, mademoiselle Esther, Eti pour les amis. Bon, je cesse de geindre, j'en reste là de mes récriminations, puisque telle était la volonté d'un premier ministre, éliminons les mademoiselles. Éliminez les mademoiselles, quel programme. Enfin bref, la formule est de lui, pas de moi. Par principe, je me méfie des éliminations, ça ressemble toujours à des exterminations. J'ai détesté la vôtre d'extermination, mademoiselle Eti. Quand j'en ai eu connaissance. Vous étiez morte depuis, longtemps. Novembre 43, c'est ça? Enfin, 43, c'est sûr. Novembre, ça l'est moins. Mais cette incertitude est compréhensible. Dans la nuit, le brouillard, le Nacht und Nebel. On y voit mal. Bref, c'est au camp, pas encore d'extermination, mais de transit, de triage, sorte d'antichambre de l'Holocauste. Que chaque mardi à 11h très précise, les SS venaient prélever 1000 juifs, pas 999, pas 1001, mais 1000. Ça, c'est la précision nazie, pour les conduire à Auschwitz. Il pleuvait sur le camp de Westerbork. Rappelle-toi, Eti, il pleuvait sur le camp de Westerbork, il pleuvait sans cesse ce jour-là. Non, dit Eti, non, il ne pleuvait pas tant que ça. Le ciel est plein d'oiseaux, écrit-elle. Les lupins violets s'étalent avec un calme princier. Deux petites vieilles sont venues s'asseoir sur une caisse pour bavarder. Le soleil m'inonde le visage et sous nos yeux s'accomplit un massacre. Tout est incompréhensible. Mais je vais bien. Ce qui est en jeu, c'est notre extermination totale. Aucune illusion à se faire là-dessus. Il faut accepter cette vérité. Mais je vais bien. Je veux me planter au milieu de ce que les gens appellent des atrocités et dire et répéter « La vie est belle, la vie est belle ». Eti Hilsum a foi inébranlable en l'humain, alors même qu'elle le voit journellement accomplir les crimes les plus odieux. Elle incarne ce qu'aujourd'hui nous croyons impossible, la cohabitation, le vivre ensemble, la réconciliation des sensations extrêmes. Elle regarde en train de sécher sur des barbelés du camp le linge des petits-enfants raflés, internés, condamnés à mort, ce linge que leurs mamans ont lavé durant la nuit pour que, demain, les petits-enfants se sentent bien dans des vêtements propres, même si demain ne verra pas le jour, précise Christian Bobin dans un poème admirable qu'Eti lui a inspiré. Le miracle et le scandale d'Eti Hilsum, c'est d'avoir fait passer en fraude à la barbe et au nez de la barbarie, c'est d'avoir introduit dans un camp dédié à l'humiliation, à la souffrance, à la mort, cette marchandise de contrebande, plus dangereuse que la plus camouflée et la plus puissante des bombes, plus perforante, plus blessante et plus silencieuse qu'un poignard, cette petite chose immense qui s'appelle la joie. Le temps de vivre vous a manqué, Eti. Aujourd'hui, c'est votre regard, c'est votre parole, c'est votre cœur, c'est votre pardon, ce sont vos bras ouverts pour embrasser le monde, tout le monde, qui manque à notre temps.
Merci Didier Decoin. À l'heure des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz, que s'agit-il de transmettre, tout compte fait?
La joie malgré tout, la joie. C'est prodigieux cette jeune femme qui voit la mort autour d'elle. Elle est notamment chargée de faire la liste des gens qui vont partir demain pour Auschwitz. Elle sait ce qui va leur arriver. Elle sait ce qui va lui arriver. Et malgré tout, elle est capable de sourire, de rire et de dire « Ah, oh, les lupins violets, comme ils sont beaux et comme le soleil est doux sur mon visage. » C'est ça, est-il, Soum. C'est la joie malgré tout. Donc c'est l'humanité malgré tout.
Merci, Didier, d'être venu faire un tour dans cette émission. Merci pour votre enthousiasme, votre générosité, vos mots, votre joie. Bon courage aussi à la présidence de l'Académie Goncourt.
Merci. Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love and so do you. Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue. Get out of your closet and put on your purple shoes. There was this girl that I once knew. Let's just say her name was Rosie, Rosie Blue. Rosie was pretty, although she barely smiled. Her eyes seemed dark, and I always wondered. Rosie never spoke much about her home. She said she loved poetry, she'd even write her own. I met Rosie in Morocco, Agadir. And how I wish that Rosie was still here. Then I would say, Rosie, Rosie, don't be so sad. Rosie, don't you know life ain't all that bad? Hey, Rosie, Rosie, Rosie Blue. Everybody needs some love and so do you.
Rosie Blue, Ayo sur France Inter. Tout de suite, c'est l'heure des médias avec Sonia.